something about it.
Oh, yes, I'm coming.
Metamorfose. Bonjour à tous, on est heureux de retrouver nos éditeurs pour ce 17e numéro de Métamorphose. 17e et néanmoins premier de la saison. C'est que la rentrée a été tellement cuisante qu'on n'a pas su où se poser pour préparer notre chère émission. Et oui, les associations sont à l'agonie, celles qu'on vous montre depuis 2 ans, celles qui s'organisent pour créer plus de liens entre les habitants, celles qui rendent la ville plus belle en végétalisant les rues, celles qui veulent offrir une alimentation saine, qui sont solidaires des agriculteurs, celles qui veillent à un meilleur cadre éducatif pour nos enfants, celles qui créent des prétextes permanents à la coopération. Enfin, toutes ces associations qui veillent en permanence à la préservation des communs et de l'intérêt général sont aujourd'hui menacées dans leurs fonctions vitales à cause des baisses conséquentes de subventions et des emplois aidés. Les liens de solidarité sont rompus au nom d'une logique de rationalisation et de rentabilité parce qu'il paraît qu'on doit gérer nos vies comme on gère une entreprise. Mais comme on tenait pas non plus à faire une épitaphe, on a préféré nous concentrer sur la raison d'être d'un certain nombre de ces collectifs, à savoir le commun ou plutôt les communs. Même si on en a déjà parlé dans une précédente émission, on n'a pas peur d'en remettre une couche, voire plusieurs. Mais j'ai pas encore dit bonjour à Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour Alima.
Je crois que tu as des infos à nous transmettre.
Et oui, parce que l'émission, toujours portée par l'association La Plateforme, cette année ne verra pas Pascal et Sandra de Focus 21 qui nous ont accompagnés précédemment. En fait, ils n'ont pas pu embarquer pour cette nouvelle saison. Ils étaient trop occupés par la production et la diffusion de leur film Irinzina, le cri de la génération climat, sorti très récemment en salle. Alors précipitez-vous, c'est en ce moment. Pascal et Sandra l'accompagnent et organisent une série de débats à la suite des projections. Et c'est donc Béa Balex, notre nouveau partenaire, une association qui veut faire du droit un vecteur de l'émancipation citoyenne, qui fera toute cette saison en notre compagnie.
Métamorphose. Et aujourd'hui, Cécile, nous accueillons sur le plateau Fabienne Orsi, économiste et chercheuse à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement. Et nous écouterons également un échange avec Daniela Festa, juriste et géographe à l'École de droit de Sciences Po, et Hervé Manchon, élu EELV, Europe Écologie Les Verts, et membre du collectif Les Sentinelles. Mais nous accueillons d'abord Fabienne Orsi. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Donc Fabienne, vous êtes économiste, chercheuse à l'Institut de Recherche sur le Développement et vous travaillez depuis de nombreuses années sur le sujet des communs. Vous avez participé à l'ouvrage dirigé par Benjamin Coria et publié en 2015, Le Retour des communs, et vous avez avec Marie Cornu et Judith Rochefeld coordonné la rédaction d'un dictionnaire des biens communs, Dictionnaire des biens communs, qui a paru aux éditions PUF au mois d'août dernier, donc PUF, Presse Universitaire de France. On va revenir sur cet ouvrage, mais déjà, pour nos auditeurs, est-ce qu'il est possible de résumer en quelques phrases ce qu'il y a derrière la notion de commun ?
Ce qu'il y a derrière la notion de commun, effectivement, en quelques phrases. Je dirais d'abord qu'il y a un retour du collectif, un retour du partage, de l'accès partagé, et surtout et avant tout, une forte critique de la propriété privée exclusive, des doctrines de l'exclusivité.
Alors oui, c'est peut-être un détail, mais je le trouve quand même intéressant. Vous avez intitulé cet ouvrage « Dictionnaire des biens communs ». Pourquoi avoir utilisé l'expression plus courante de « biens communs » et en quoi cela introduit une nuance avec l'expression plus couramment utilisée aujourd'hui dans les milieux académiques de « commun tout court » ?
En fait, cette notion de « commun tout court », elle n'est pas uniquement utilisée dans les milieux académiques. Elle fait l'objet d'un vaste mouvement citoyen, d'expérimentation sociale. À vrai dire, notre objectif, c'est de faire un dictionnaire critique des communs. Et c'est notre maison d'édition qui nous a proposé d'appeler ça « Dictionnaire des biens communs », avec l'idée que « bien commun », ça parlait plus à un large public que la notion même de « commun ». On était relativement sceptiques, mais en fait, c'est pour cette raison-là qu'on l'a appelé comme ça.
Et il y a quand même ce mot de « bien » qui a introduit une nuance particulière, puisque au départ, on a souvent considéré que cette façon de gouverner s'appliquait à des ressources, en fait. Et du coup, on partait du principe que ces ressources sont devenues des biens.
Moi, je dirais tout d'abord, pour moi, les notions de bien commun et de commun sont différentes. Bien commun, ça évoque, par exemple, des ressources naturelles, telles que l'air, l'eau, et avec cette idée que ce sont des biens qui sont communs à tous. l'humanité tout entière. Tandis que quand on parle de commun, c'est beaucoup plus large. Et surtout, ça évoque l'organisation sociale qu'il faut mettre en place pour justement soit préserver, soit faire de ce bien un commun. Et ce qui est intéressant dans cette notion de commun-là, c'est l'idée de quelles règles de partage, d'organisation, de contrôle de cette ressource on met en place, quel type de propriété on met en place pour justement la gérer en commun.
Fabienne, comment est-ce qu'on pourrait décrire le contexte qui favorise ce retour des communs ? Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus des communs ?
Je pense que ce qui est important là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a assisté à partir des années 90 à une forte montée en puissance de la propriété privée exclusive dans le domaine de l'immatériel. En particulier, on a assisté à un renforcement de la propriété intellectuelle. Donc, propriété intellectuelle, c'est le droit d'auteur en particulier, le droit des brevets. Et cette montée en puissance, ce renforcement a créé des problèmes d'accès à la connaissance, de blocage de l'innovation. Donc, vous avez tous entendu parler, par exemple, de l'accès, du blocage de l'accès aux médicaments, notamment dans les pays du Sud, en raison du fait qu'il y avait des brevets sur ces médicaments et que ça, de fait, impliquait des prix très élevés que les pays du Sud ne pouvaient pas se payer. C'est aussi la question de la brevetabilité du vivant. Le droit a évolué de telle sorte qu'on en est arrivé à breveter des découvertes scientifiques, en l'occurrence des gènes humains. Donc c'est toute la problématique autour de la brevetabilité du vivant, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine du végétal. Mais on retrouve ça aussi dans le domaine du droit d'auteur, dans le domaine du droit culturel. Et ce sont ces questions-là, ces problèmes-là, qui ont fait que des gens, aussi bien au niveau militant, mais aussi bien au niveau de la réflexion universitaire, se sont posés la question de la nécessité de repenser le commun, justement, comme alternative à cette montée de l'exclusivisme.
Et donc, par rapport à ces questions de propriété privée, en effet, vous évoquez une socialisation de la propriété. Alors, est-ce que cela implique une limite au droit de propriété, qui aujourd'hui est quasi absolue, ou bien des devoirs auxquels devraient se soumettre les propriétaires ? Qu'est-ce qu'on entend par une socialisation de la propriété ?
Ce que je voudrais dire, tout d'abord, c'est que si on a cette notion de commun, elle est pas sortie toute seule de son chapeau. C'est d'abord, en termes de conceptualisation, on la doit à Elinor Ostrom, qui est une politiste américaine et qui a reçu en 2009 le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs. Donc, fait assez extraordinaire. C'est aussi... elle a beaucoup travaillé sur les communs naturels, que ce soit des pêcheries, que ce soit des systèmes d'irrigation, que ce soit des forêts. Et donc, l'importance de ces travaux est d'avoir mis en avant le fait que, alors même qu'il y avait une forte idéologie pour la suprématie de la propriété privée sur toute autre forme de propriété, elle a mis en avant que, dans certaines conditions, des communautés étaient à même de gérer elles-mêmes, selon des règles qu'elles avaient elles-mêmes produites, des ressources naturelles, et que cette gestion en commun, selon des règles de propriété qui sont complètement différentes que la propriété privée exclusive ou que la propriété d'État, on pourra en parler tout à l'heure, eh bien, pouvait conduire à une gestion soutenable de la ressource, y compris de la ressource, mais aussi pour le bien-être de la communauté en question. Donc, quand on parle de socialisation de la propriété, je ne sais pas si c'est d'abord... Bien sûr, c'est une question importante, mais ce qui en amont est important, c'est de repenser la propriété. Qu'est-ce que c'est que la propriété ? Et ensuite, elle peut se décliner, cette propriété, en propriété privée, en propriété privée exclusive, en propriété publique. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la propriété publique ? Mais il y a aussi d'autres formes de propriété. La propriété, on peut l'utiliser d'une manière partagée, avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de personnes de la communauté. Mais après, ça va poser la question de qu'est-ce qu'on entend par communauté. Et ça peut être une propriété inclusive au lieu d'être exclusive. Et ça, on en reparlera justement parce que dans ces nouveaux communs de la connaissance, on utilise non pas, c'est pas une absence de propriété, mais c'est une utilisation de la propriété à des fins d'inclusion, et ça on pourra en reparler. Donc on peut aussi parler de la question de la socialisation de la propriété, mais effectivement, et de ses limites, mais aussi de son objectif social à la propriété.
Alors justement, parlons de la propriété publique. Selon Daniela Festa, que nous écouterons tout à l'heure, l'appropriation et l'utilisation par l'État et les autorités publiques des logiques de marché est de plus en plus prononcée. Les biens et les ressources publiques ont tendance à être gérés comme des biens privés, dans les logiques de rentabilité, voire de recherche de profit qui pourraient supplanter l'intérêt général. Est-ce que vous avez des exemples ?
Avant d'avoir des exemples, je voulais revenir sur cette notion de propriété publique. Parce qu'on disait tout à l'heure, si on peut parler de retour du thème des communs, c'est d'abord et avant tout lié à cette montée de la propriété privée dans le domaine de l'immatériel. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, effectivement, c'est la manière dont ce qui relève du domaine public, donc domaine public géré soit par les collectivités territoriales, soit par l'État, est de plus en plus soumis à des logiques de propriété privée. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que le domaine public était pendant très longtemps, il n'y avait pas de propriété sur le domaine public. D'accord ? Et à partir, en France, en tout cas, à partir de 2006, on invente ce qu'on a appelé la propriété publique. Donc ça veut dire que sur le domaine public, maintenant, il y a une propriété qui est en fait de la propriété d'État. Attention à ne pas confondre avec la propriété privée de l'État ou la propriété privée des collectivités territoriales. Là, il s'agit bien du domaine public. Il y a une propriété sur le domaine public. Et alors même que cette propriété publique aurait pu être gérée d'une manière, utilisée d'une manière complètement démocratique à des fins d'intérêt général, eh bien effectivement, elle s'est appuyée sur, elle fonctionne de la même manière, quasiment de la même manière que la propriété privée. Et donc effectivement, à des fins de privatisation et de marchandisation. Et donc c'est un phénomène que l'on observe de plus en plus au niveau des différents États européens en particulier. Et c'est là-dessus, effectivement, que viennent se greffer les logiques en contrepoint, justement, de communs urbains.
Alors, justement, par rapport à cette question de la propriété publique et de la propriété privée, vous indiquez dans l'ouvrage dont on parle, le dictionnaire, mais aussi dans certains de vos articles, que ces communs seraient une sorte de figure concurrente ou complémentaire au modèle conventionnel, en fait, de régulation qui se fait d'habitude soit par le marché et sa soi-disant main invisible ou par l'État. Alors, on parle d'une troisième voie. Comment est-ce que vous illustreriez cette troisième voie ?
Oui, effectivement, on parle souvent de troisième voie, mais cette troisième voie, c'est d'abord, elle permet de penser, si vous voulez, il y a un espace qui s'ouvre entre penser avec l'État ou penser avec le marché et qui nous permet de penser le collectif et l'action collective. C'est ça qui est intéressant. Et dans cette troisième voie, ça permet de se poser un certain nombre de questions et donc notamment la possibilité d'inventer de nouvelles formes de propriété qui soient partagées, qui ne soient pas uniquement de la propriété d'État ou qui ne soient pas de la propriété privée exclusive. Et donc, on a un exemple, je trouve que c'est bien cet exemple, c'est l'exemple des logiciels libres qui ensuite se sont répercutés. Qu'est-ce que sont que les logiciels libres ? Ce sont des logiciels dont le code source est ouvert. Mais il y a une propriété qui est le droit d'auteur. Mais c'est que les initiateurs de ces logiciels libres proposent d'utiliser les droits d'auteur non pas à des fins exclusives, mais à des fins inclusives. C'est-à-dire que grâce au droit d'auteur, ils ont complètement subverti l'origine du droit d'auteur en proposant que ce droit d'auteur permette de protéger le logiciel, ou plus exactement le code source, de toute possibilité d'accaparement privatif par un seul individu. Et ce sont à travers les licences libres que ce phénomène a été possible. Et donc, cette propriété-là, elle est complètement partagée par l'ensemble de ceux qui rentrent dans la communauté et en même temps empêche que le produit de la communauté soit capté par la propriété privée.
Alors, vous faites référence à cette communauté. C'est intéressant parce que, justement, c'est un des points un peu qui mérite d'être plus expliqué. On fait souvent référence, quand on parle des communs, à la communauté et au modèle de gouvernance. C'est les deux éléments constitutifs, en fait, du projet des communs. Mais à quelle communauté fait-on référence et qu'entend-on par gouvernance ? Et du coup, moi, ça me questionne sur en quoi est-ce que cette idée d'une gouvernance partagée serait pour nous bousculerait en fait cette tendance actuelle de nous considérer tous comme des consommateurs.
C'est une question qu'on peut prendre à plusieurs niveaux. Effectivement, cette idée, cette notion de commun renvoie d'un côté à comment utiliser la propriété d'une manière différente et quel est le lien avec cette utilisation différente de la propriété et la manière dont on va gouverner en fait la ressource en question, voire même la produire, et effectivement par qui ? Par une communauté. Effectivement, c'est très important de se poser la question, mais qui est cette communauté et quelle est cette gouvernance et en même temps quelle est cette forme de propriété qu'on peut inventer d'une manière partagée ? Donc ça pose déjà la question de la communauté, de quelle communauté parle-t-on ? Lorsqu'on est dans le cas des communautés épistémiques en ligne, comme Wikipédia par exemple, vous voyez bien, il y a bien l'idée de communauté, c'est-à-dire que c'est une communauté qui produit la connaissance, dont vous pouvez avoir accès sur n'importe qui peut avoir accès sur Internet. Donc, et cette connaissance, elle est produite par une communauté, mais n'importe qui peut rentrer dans cette communauté à partir du moment où cette personne qui veut rentrer dans la communauté va respecter les règles qui ont été mises en place par la communauté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de contribuer à une page Wikipédia sur une définition en particulier, mais c'est contributif, mais vous ne pouvez pas contribuer n'importe comment. Vous devez respecter certaines règles et il y a des médiateurs. Eh bien, ces règles-là, qui organisent la communauté pour produire la connaissance en question, eh bien, elles ont été mises en place par la communauté. Donc, ce sont des règles autoproduites par la communauté qui va permettre le fonctionnement et la production de la ressource qui est partagée par tous. Donc là, dans le cas de Wikipédia, on voit bien la question de à la fois la gouvernance, à la fois la propriété qui est partagée, mais qui n'est pas une propriété exclusive, hein, qui est partagée à partir du moment où on rentre dedans, et à la fois l'utilisation, dans le cas des communautés épistémiques, de la ressource qui est produite et on peut l'utiliser gratuitement.
Alors justement, donc en abordant cette question de la règle de gestion, on peut aborder aussi la question des règles de gestion des biens publics ou des services publics, et ça me renvoie à la question du partenariat public-privé qu'on met en place de plus en plus souvent, et notamment à Marseille, puisqu'on a récemment appris que la ville de Marseille allait mettre en place un partenariat public-privé pour rénover 32 écoles de la ville. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelles sont les conséquences de la mise en place d'un partenariat public-privé ?
Alors peut-être que je voudrais revenir tout d'abord sur l'idée de gestion, parce qu'en fait, je trouve qu'on a des problèmes de définition et tous les mots sont ambigus. On parle souvent de gestion, mais aussi on parle de gouvernance et on parle aussi de gouvernement. Et on a du mal à se retrouver dans l'ensemble de ces trois mots. Moi, je pense que gestion, c'est réducteur, dans le sens où quand l'ensemble des règles qui vont gouverner le commun, il y a effectivement le droit de gestion, mais pas uniquement. Il y a aussi le droit de contrôle. Qui va contrôler ? Il y a aussi le droit d'exclusion, s'il y a un droit d'exclusion ou d'inclusion.
Donc, vous voyez,
ou d'accès, effectivement, ou de prélèvement. Donc, sans remettre uniquement à la question de gestion, c'est relativement, il me semble, réducteur. En même temps, ce mot de gouvernance, il évoque aussi un certain nombre de choses. Il est entaché de toute une logique autour de la gouvernance mondiale, mise en place par des instances internationales, sans vraiment d'accroche démocratique. Mais en même temps, on peut se réapproprier. Et le mot de gouvernement aussi est chargé d'histoire. Donc, je pense qu'on est à un moment d'invention des mots et de mettre un contenu dans les mots. Donc si on décide de s'approprier le terme gouvernance, on peut aussi le détacher de sa coloration à travers le prisme et lui rajouter des composantes démocratiques. Parce que là, je pense que justement, dans ces partenariats publics-privés, on met le doigt sur un problème de démocratie très importante. Et on le voit aussi dans la question des communs urbains, je pense que c'est complètement lié. C'est qu'avec la multiplication des partenariats publics-privés, effectivement, on voit progressivement s'échapper l'idée d'intérêt général et de service public au profit de logiques privatistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un partenariat public-privé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous asseyez la logique de service public sur, en fait, des règles de propriété privée, de gestion privée.
Et une logique de rentabilité.
Ce n'est pas le seul moyen, mais effectivement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les politiques publiques s'inscrivent dans des logiques de rentabilité. D'ailleurs, on pourrait parler de Marseille à plusieurs niveaux à ce niveau-là, mais hier, par exemple, je n'étais pas passée par là depuis un moment, devant le stade Vélodrome. J'ai été complètement stupéfaite de voir à quel point le projet urbanistique de ce lieu-là, autour du stade Vélodrome, à travers la construction d'hôtels, à travers la construction de bâtiments privés nouveaux, et puis avec ce centre commercial qui est en train était déjà construit. Était déjà construit, alors même que on a attendu des années, on attend des années pour que des bâtiments publics soient rénovés, pour que des routes, des infrastructures publiques soient mises en place. Et on voit bien la logique qui est complètement différente dans cette thématique-là.
Et d'ailleurs, il y a à Marseille de plus en plus de collectifs, hein, pas de plus en plus, parce qu'en réalité, Marseille est une ville très dynamique au niveau de la vie des collectifs, mais qui se mobilisent pour préserver ce qui on pourrait considérer en tout cas comme des ressources communes et des ressources d'intérêt collectif. Et il y a un potentiel de mouvement autour des communs qui se met, qui se met en place à Marseille.
Tout à fait, Lima. Moi, ça évoque tout de suite deux sujets qui nous intéressent dans le quartier de la Belle de Mai. Le premier, c'est un petit angle de rue, une petite friche, un délaissé, comme on dit, sur lequel un bailleur n'a jamais rien construit et qui pourrait faire un excellent petit espace public, qu'on a d'ailleurs récemment investi avec les habitants de la Belle de Mai pour en faire ce qu'on appelle le coin pour tous. Et qui peut aujourd'hui être accessible à tous pour organiser des pique-niques, des tournois de pétanque, des barbecues, etc. Et puis le jardin Leva, qui est une autre question qui est très sensible en ce moment, puisque c'est un espace complètement dingue, en plein cœur du quartier de la Belle de Mai, qui a été racheté par la mairie, et pour lequel une communauté tente de se construire au sein des habitants de la Belle de Mai, pour essayer d'en faire un espace géré collectivement et dans l'intérêt du quartier. Voilà, donc je ne sais pas si on a vraiment le temps de s'étendre, mais on reviendra sur ces deux potentiels communs au cœur de la Belle de Mai.
Alors justement, il va y avoir deux journées là, qui vont être organisées à l'initiative de Fabienne Orsi et de l'IRD en invitant des collectifs qui justement se mobilisent pour préserver des ressources communes. Est-ce que Fabienne, vous pouvez nous en dire plus sur ces deux journées, où est-ce qu'elles sont organisées, quand et avec qui?
Oui, ce sont des, on les a appelées rencontres itinérantes parce qu'elles vont s'organiser. Alors c'est en fait à l'occasion de la parution du dictionnaire des biens communs qu'on a organisé cet événement, mais en prenant plutôt prétexte de la parution de ce dictionnaire et en créant des rencontres itinérantes autour du thème des communs, de la cité et de la ville. Et elles vont avoir lieu au MUCEM le vendredi 8 décembre après-midi, à Darlamifa le vendredi soir à partir de 18h30 et au Théâtre du Merlan le samedi matin. Et en fait, ce sont des rencontres qui ont été organisées effectivement avec le soutien de l'IRD, mon laboratoire, le LPED, et avec des collectifs marseillais, donc Béabalex, Darlamifa, Pensons le matin et Un centre-ville pour tous. Et donc, ce sont des rencontres qui seront ouvertes à tous. Et il y aura, ce sont des rencontres itinérantes parce qu'il y aura trois temps en particulier, un temps de séminaire de recherche au MUCEM, un temps de débat public à Darlamifa avec des invités italiens en particulier qui sont fortement impliqués dans les communs urbains en Italie, et puis un moment d'échange d'expériences, en particulier des discussions autour d'expériences marseillaises au Théâtre du Merlan le samedi matin.
Alors à propos du dictionnaire quand même, je voudrais signaler aux auditeurs, parce que le terme dictionnaire peut laisser penser à une succession de définitions, quelque chose d'un petit peu austère. Au contraire, cet ouvrage que vous avez coordonné avec Marie Cornu et Judith Rochefeld définit certes un ensemble de notions et de concepts très importants, comme par exemple écocide ou creative common, comme on en entend parler quand même régulièrement aujourd'hui. Mais surtout, il est émaillé d'exemples concrets, d'expériences vécues, et je pense notamment à Acqua Bene Comune, le mouvement Au Bien Commun en Italie, dont nous parlons avec Daniela Festa dans la prochaine interview.
Et avant d'écouter Daniela Festa, d'abord je veux remercier Fabienne d'avoir été avec nous, et on la retrouve donc au mois de décembre, 8 et 9. Vous aurez toutes les informations sur le site de Radio Grenouille à la page Métamorphose. Et donc Cécile, tu nous as parlé tout à l'heure de Daniela Festa, qu'on écoute à présent.
Métamorphose.
Bonjour Daniela Festa, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de l'invitation.
Daniela, vous êtes juriste et géographe et vous vous intéressez entre autres à la relation entre action collective et espace urbain, au droit à la ville et au commun urbain. Vous êtes actuellement rattachée à l'école de droit de Sciences Po. Pouvez-vous nous préciser de quoi on parle quand on parle de commun urbain?
Eh oui, ce n'est pas très facile de donner définition univoque des communs urbains. Mais en parlant des communs urbains, on veut mettre en évidence tout un processus d'évolution dans le débat sur les communs qui a essayé de dépasser l'idée que les communs devaient être uniquement des ressources naturelles, une source d'eau, un pâturage, comme on trouvait dans la littérature scientifique et aussi dans la tradition de un peu tous les États européens, pour mettre en évidence que les communs peuvent aussi se situer dans la ville, et ça, pas uniquement pour le fait que leur localisation soit à l'intérieur de la ville, mais parce que la ville est un objet qui produit et reproduit constamment un commun. Et donc, elle produit et reproduit constamment des ressources qui sont mises à la... qui sont voués à l'usage collectif. Donc, marquer, juxtaposer l'adjectif urbain au mot commun veut marquer une grande évolution dans la pensée sur les communs, c'est-à-dire se libérer d'un présupposé naturalité au essentialisme de la ressource, considérer que les communs étaient communs parce que la ressource en elle-même avait des caractères communs, et regarder plutôt les relations entre les citoyens, les habitants, je dirais de façon plus large, et aux ressources, et leur façon de décider d'utiliser et de partager cette ressource.
Daniela, vous constatez qu'en Italie, les plans d'aménagement urbain ne s'appliquent plus systématiquement à travers le prisme de l'intérêt général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et est-ce que vous constatez la même chose en France ?
C'est une constatation plutôt amère et bien évidemment qu'on ne peut pas généraliser la critique aux outils d'aménagement. Et on critique assez large, et d'ailleurs les études urbaines, les études sur l'aménagement ont déjà produit beaucoup de critiques internes eux-mêmes. Mm-hmm. En général, ce qu'on constate, et on le constate de façon assez large, hein, on organise plusieurs colloques, il y a plusieurs ouvrages qui se posent la question d'une espèce de basculement de la fonction d'aménagement qui a perdu sa capacité d'orienter les plans d'urbanisme et les projets urbains vers l'intérêt collectif et l'intérêt général. Je crois qu'on pourrait, on devrait regarder plusieurs causes, mais pour répondre à votre question, je crois qu'il y a surtout deux éléments qui ont déterminé une sorte de dérive dans les outils d'aménagement, qu'on constate de façon générale en Italie et plus largement en Europe, avec beaucoup de nuances différenciées, bien évidemment. D'abord, la pratique de la planification par contrat et tout un ensemble de dérogations aux plans d'urbanisme généraux, mm-hmm, qui ont été mis en place, on va dire, à partir des années 70 et de façon de plus en plus forte vers les années 90, où on a commencé à trouver des dérogations aux plans d'urbanisme généraux qui sont normalement approuvés avec beaucoup de garanties démocratiques. Il ne s'agit pas en fait d'outils purement techniques, c'est des outils qui impactent sur nos vies quotidiennes, sur la ville que nous traversons, sur des parcs, sur des jardins, sur des routes, sur des services urbains dont nous sommes les utilisateurs. Et donc, ces pratiques d'aménagement contracté ont fait basculer de plus en plus la fonction d'aménagement vers des sortes de partenariats publics-privés qui ne sont pas toujours orientés à l'intérêt collectif, mais qui met en avant de plus en plus, et à niveau global, l'intérêt privé, l'intérêt des entreprises qui y participent de façon de plus en plus importante. Une autre pratique qui est intervenue de façon globale, on a beaucoup en parlé au Brésil, si on pense à toutes les contestations pendant les Jeux olympiques, avant même, dans la phase de préparation des Jeux olympiques ou de la Coupe du Monde qui s'est tenue au Brésil, les gens ils sont descendus dans la rue, il y a eu beaucoup de contestations parce que ces grands projets, les Olympiades, les Jeux olympiques, mm-hmm, les expos universels, plutôt que d'autres projets un peu exceptionnels, très souvent, ils arrivent dans les programmes d'aménagement urbain, mm-hmm, et ils se situent en dehors de toutes règles, en, mm-hmm, dehors de toutes pratiques, et très souvent, ils attirent beaucoup d'intérêt. Donc, tout cela, ce n'est pas pour vouloir stigmatiser le partenaire privé, mais pour dire que dans ces grands projets d'aménagement, dans ces grands plans d'aménagement, l'élément démocratique, parfois, il disparaît et ça se transforme très souvent dans un plan de communication institutionnelles qui n'intègrent pas vraiment les procédés démocratiques.
Oui, parce que donc juste pour nos éditeurs de repréciser que les plans d'aménagement, donc notamment nous on a en France le plan local, enfin les plans locaux d'urbanisme et maintenant les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui obligent à avoir une étape de concertation avec les habitants. Et du coup, si je résume ce que vous expliquez, c'est que les plans d'aménagement urbain sont adoptés selon les règles normalement démocratiques, mais par le biais de dérogations qui permettent de faire des partenariat public-privé, donc vous citiez par exemple le Brésil, ou sur des événements exceptionnels comme les Olympiades, etc., on déroge à cette obligation de passer par une phase de concertation avec les habitants.
Oui, normalement, c'est exactement comme vous avez précisé. Et en plus, je voudrais aussi aller un peu plus loin pour dire que très souvent, la concertation et la participation qui les documents demandent et met en place, aussi bien à niveau local qu'à niveau européen et international. Il y a plusieurs conventions qui obligent à des concertations larges quand on met en place des projets qui touchent aux ressources naturelles ou qui peuvent provoquer des déchets polluants, des déchets nucléaires, etc. etc. Même ce type de concertation, parfois, n'est pas organisé, n'est pas proposé de façon à pouvoir être réellement démocratique. Et vous savez, parce que je sais que vous êtes engagé aussi dans votre ville en tant que citoyen et habitant, vous savez que les processus de participation, ils demandent des temps longs, ils demandent une véritable information, ils ne peuvent pas se réduire à une petite réunion dans une salle où on décide, on n'est même pas censé décider parce que le projet est déjà prêt, nous informe qu'il sera mis en place d'ici à pas longtemps. Donc, il faut vraiment un peu renverser la logique. Ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que nous essayons de faire comprendre que la participation est une question beaucoup plus profonde de ce qu'on avait imaginé et qui demande beaucoup plus d'attention. Mais nous sommes toujours là et il faut encore insister de façon très forte pour expliquer que les décisions qui concernent le milieu, notre milieu de vie, qu'il soit naturel, qu'il soit culturel, qu'il soit urbain ou même immatériel, doit être pris de façon large dans des arènes et dans des décisions larges où on puisse vraiment mettre en place un processus de codécision.
Oui, de codécision et donc pas d'information comme on le fait en réalité la plupart du temps. Par exemple, si on prend, parce qu'il y a eu un énorme mouvement donc en Italie autour d'un projet de privatisation de la gestion de l'eau, et est-ce que vous pouvez en dire deux mots à nos auditeurs, replacer un petit peu le contexte et ce qui s'est passé après justement ce projet de privatisation de la gestion ?
Et justement, c'était un projet qui était mis en place dans les années 2000 et qui visait à privatiser non seulement l'eau, mais tous les services publics avec une obligation de privatisation de presque le 40% de capital qui devait passer donc aux entreprises privées et jusqu'à la totalité de capital. Donc il s'agissait non pas d'une privatisation ponctuelle, mais d'une privatisation comme système culturel et économique, faire passer l'idée et faire passer aussi les coalitions d'intérêts qui étaient derrière l'idée que la privatisation et que la gestion privée c'est dans tous les cas la plus efficace et dans tous les cas l'évolution obligatoire de nos systèmes de gestion de ressources. Donc là, il y a eu une très grande mobilisation, une mobilisation qui a été très étonnant même pour nous-mêmes qui y avons participé, parce que ça a été une mobilisation très transversale qui a créé des accords qui ont dépassé les fragmentations idéologiques et politiques ordinaires qui sont partis de la vie de la vie politique d'un pays pour viser l'intérêt de garder une gestion public et de plus en plus commun de certaines ressources. Par exemple, donc ce référendum a été très un grand succès, un succès extraordinaire, et dans la phase de préparation et dans le moment de son de sa réalisation, qui était en juin 2011, où le 96% des gens qui se sont exprimés, déjà avec une participation très large de la population, a dit non, on ne veut pas de privatisation des services publics et de l'eau, et dans tous les cas, on ne veut pas de privatisation systématique. À la limite, on peut envisager que certaines ressources, certains services pourraient tomber dans un régime de partenariat ou avec des privés, mais pas de façon systématique, et surtout l'eau, en tant que ressource primaire de notre bien-être, de notre existence, doit rester sur la régie publique, non pas parce que la régie publique soit tellement
efficace,
mais parce que le service public permet aussi d'envisager après des gouvernances communes. Et donc la société publique qui a été mise en place à Naples, qui s'appelle ABC, c'est-à-dire au bien commun, c'est le nom de la société qui a été créée, c'est une régie publique qui présente des problématiques aussi, mais qui vise une gouvernance élargie, étendue à la société, avec la participation des travailleurs, d'associations, qui puissent être dans le comité de vigilance et des décisions à l'intérieur du conseil d'administration même de la structure.
Et Daniela, en Italie, vous avez, il y a plusieurs expériences d'appropriation par les citadins d'espaces ou de biens publics ou privés qui sont définis justement comme cruciaux pour l'intérêt collectif. Alors, est-ce que vous pouvez, alors peut-être rapidement parce qu'on est en train de dépasser le temps qui nous est imparti, nous citer rapidement un exemple et surtout nous dire comment est-ce que vous qui êtes donc juriste et géographe, mais comment est-ce que le droit vient accompagner ces dynamiques?
Je vous ferai juste trois exemples. Et je ferai d'être rapide pour donner plutôt des suggestions que des solutions. Par exemple, en 2011, un cinéma privé dans un quartier de Rome, un quartier très important pour ses traditions de résistance politique et aussi crucial à niveau économique, c'est le quartier universitaire, un cinéma privé a été occupé par un ensemble très très large des citoyens, des comédiens, de juristes, de scientifiques, parce qu'il devait être dans le projet de propriétaire transformé en casino. Donc là, on voit que ce projet, il détournait totalement une ressource qui était considérée importante au niveau culturel et social de sa vocation originale, parce que ce cinéma, ce lieu restait comme un cinéma, et dans toute son histoire avait été exploité comme cinéma ou fermé par la propriété qui considérait cette exploitation pas assez profitable. Plus tard, occupation du Théâtre Valle, un théâtre magnifique au cœur de Rome, un des théâtres les plus importants de notre pays, a été occupé par les travailleuses et les travailleurs du spectacle et de l'art. Et après, cette communauté s'est élargie énormément parce que ce théâtre était à risque de gestion privative, on va dire. Il serait resté public, bien évidemment. Il était rattaché, c'était un monument classé et c'est parti des mouvements des monuments de culturel d'Italie, mais on soupçonnait que sa gestion serait passée à travers un appel d'offres à une gestion purement privée. Encore, Asilo Filangeri à Naples, un établissement public de la ville, cette fois, pas de l'État, mais de la ville de Naples, il a été occupé parce qu'en fait, cette ressource n'était pas assez utilisée. Elle avait été confiée à une fondation culturelle, mais cette fondation, c'était un peu un écran vide et elle ne faisait pas grand-chose. Elle avait des très forts liens politiques, mais elle ne produisait pas des choses dans lesquelles la communauté de la ville, la communauté des travailleurs du spectacle, en première ligne, mais aussi de toute la ville, arrivait vraiment à se reconnaître. Donc, comment le droit rentre là-dedans? Le droit, il devient de plus en plus, il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis en France, dernièrement en France et en Belgique, qui peuvent être tout à fait intéressants. Je pense à l'ouvrage de Jacques Maille, à l'ouvrage de François Host, qui s'interroge sur le droit, à quoi sert le droit. Donc on constate de plus en plus que les luttes s'organisent aussi pour mettre en place des luttes juridiques, pour aller dans les tribunaux, pour avoir des décisions. Par exemple, l'occupation du cinéma Palazzo a eu un jugement qu'on peut juger tout à fait positif par rapport à l'occupation. Un jugement qui a protégé les occupants en disant que cette occupation n'était pas une occupation égoïste, qui visait à des intérêts égoïstiques, on va dire, mais était visée à la protection de la vocation culturelle originée des lieux. De plus en plus, le droit devient une façon, un langage pour faire avancer les luttes et faire comprendre aux autres la légitimité de certains luttes politiques et le fait que des luttes politiques peuvent utiliser le langage du droit, s'emparer du droit pour affirmer une façon plus large de profiter de certaines ressources, de mettre des ressources au service de la collectivité ou autrement de les protéger par des prédations qui peuvent leur attaquer.
En fait, un des enjeux principaux de l'accompagnement, enfin du droit dans ces, à côté de ces luttes, hein, je dis bien dans l'accompagnement à côté de ces luttes, c'est de créer de la culture du précédent, c'est-à-dire de créer des jurisprudences qui vont faire avancer justement les lignes. Et l'exemple que vous citiez suite à l'occupation du cinéma Palazzo en est un, puisque c'est justement en travaillant dans ces interstices du droit qu'on permet aussi de faire avancer les cultures et notamment la culture institutionnelle.
Tout à fait. Et c'est des précédents. Il faudra préciser que dans le système des civils, non, le précédent n'a pas un impact aussi fort que dans les systèmes de common law.
Mais
à côté de là, au-delà de ça, un arrêt de justice, une décision, un impact culturel important.
Oui,
déclare des choses qui peuvent être appropriées. Et j'utilise ce mot de la façon plus noble qu'on puisse l'entendre, approprié par d'autres gens qui sont en train de mener les mêmes combats, faire évoluer une conscience culturelle et politique. Et donc, c'est pour cela que le droit intervient pas seulement dans les palais de justice, mais intervient dans la culture. Donc, même au-delà des combats qu'on puisse mener dans des tribunaux, les combats parlent le langage de droit, performe le droit, on dit. C'est-à-dire, ils utilisent le droit pour produire une légitimité, un consensus, et pas uniquement pour produire un conflit, comme on pourrait penser si on pense à un litige judiciaire classique.
Merci beaucoup, Daniela. C'est vraiment passionnant. Et en fait, j'avais encore plein de questions, notamment sur les démarches faites par les maires de Bologne et de Naples qui ont créé des chartes pour donner un cadre sécurisé, en fait, aux dynamiques autour des communs urbains. Malheureusement, on a vraiment dépassé le temps, donc on ne va pas pouvoir en dire plus tout de suite. Mais ce qui est super, c'est que vous venez à Marseille bientôt. Vous venez à Marseille les 8 et 9 décembre pour un événement qui est organisé justement autour des communs. Et donc, on va pouvoir creuser ces questions avec vous. Et je vous en remercie. Je vous en remercie beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Et donc, je vous dis à très bientôt.
Merci à vous de l'invitation et j'espère, lors de nos rencontres à décembre, de pouvoir entrer en relation avec des comités, des associations, des mouvements qui luttent pour les communs urbains, parce qu'on organise cet événement. Cet événement a été organisé dans le but aussi de tisser des liens, faire évoluer des rencontres et faire avancer donc les luttes pour les communs.
Exactement. Et donc, c'est tous ces collectifs, enfin tous, sans être exhaustifs, en tout cas, nombreux collectifs seront invités. Et vous aurez donc les informations sur le site de Radio Grenouille, sur la page de Métamorphose, notamment, entre autres. Merci beaucoup, Daniela, et au plaisir de la prochaine rencontre.
Au revoir.
Au revoir.
Métamorphose.
Pour moi, la ville en commun, en fait, c'est une ville qui n'est pas privatisée, où les intérêts des multinationales ne sont pas en train de nous chasser de nos maisons, de nous chasser des espaces publics. Une ville en commun, c'est une ville où, qui n'est pas à vendre. C'est une ville qui ne fétichise pas la marchandise dans tous ces magasins ou ces centres historiques. C'est une ville qui est respectueuse de ses habitants, qui est ouverte. C'est une ville qui est pour tous, enfants, hommes, femmes, minorités, LGBT, vraiment qui est vraiment pour tout le monde, et les personnes âgées bien sûr. Et c'est une ville qui est gérée en commun, où en fait dans le fonctionnement quotidien et dans des choses vraiment très très simples, dans la vie quotidienne, on apprend à gérer en commun pour réduire les déchets, pour avoir tous un logement, pour avoir des moyens de se déplacer qui sont non polluants. Et donc c'est vraiment ce travail-là, donc c'est à la fois un processus, une ville en commun, et à la fois un héritage, parce qu'en fait ces édifices, ces lieux, ces villes, en fait elles sont en commun, parce que ces villes s'approfondissent des traditions historiques bien spécifiques. Sinon on va vivre tous dans les mêmes parcs d'attractions qui seront uniformisés dans le monde entier, c'est vraiment pas intéressant du tout.
C'était David Baudinier de l'atelier populaire d'urbanisme de Grenoble. Il était interviewé par Commons Police dans le cadre des rencontres sur le municipalisme, le Fearless Cities, qui s'est tenu à Barcelone en juin dernier. Et pour nous parler de cette ville en commun, selon la définition de David Baudinier, j'accueille au téléphone Hervé Manchon. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller d'arrondissement Europe Écologie Les Verts et membre cofondateur et co-animateur du collectif Les Sentinelles, qui a pour objet de veiller, on peut le dire comme ça, aux intérêts collectifs des Marseillais, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Nous sommes quelque part des lanceurs d'alerte sur la gestion du bien commun à Marseille.
Et vous êtes aussi à l'initiative d'une pétition contre le projet de privatisation du parc Valmer à Marseille. En quoi consiste ce projet de privatisation?
Alors, il s'agit de faire un hôtel 5 étoiles sur un jardin public, en privatisant une partie de la parcelle, en faisant planer un risque sur le jardin pour enfants. Et puis récemment, on a appris en privatisant aussi la partie du littoral, la crique qui est rattachée au jardin.
D'accord, donc c'est un appel à projet qui a été lancé par la ville de Marseille, avec l'objet, le projet, c'est d'en faire un hôtel de luxe 5 étoiles, hein, c'est bien ça?
C'est un projet déguisé, en fait, puisque l'idée dans la tête de Dominique Vlasto, qui s'est faite conseiller par un hôtelier marseillais, ça a été, pour elle en tout cas, de faire un hôtel. Mais dans l'appel à projet, il n'était pas ciblé sur l'hôtellerie.
D'accord.
Il était ouvert à n'importe quoi, mais sort du chapeau,
d'accord,
un projet d'hôtel.
Ok. Et donc, nos auditeurs comprennent bien, en fait, le bâtiment reste, appartient à la ville, il demeure à la ville, mais du coup, c'est l'activité qui sera gérée, du coup, par une organisation privée. Et a priori, là, pour l'instant, ce qui ressort du chapeau, donc, c'est un hôtel 5 étoiles. Dans le cas du parc Valmer, on n'est pas à proprement parler dans le cadre d'un commun, dans le sens où il n'y a pas une communauté d'habitants qui gère ce lieu et qui en définit les règles d'usage, hein, comme on l'a défini préalablement avec Fabienne Orsi, avec Daniela Festa. Mais cela étant, il y a des usages importants. Et quels sont-ils ces usages, dans la Villa Valmer, dans le parc Valmer, et comment est-ce que le projet vient les menacer?
Oui, alors juste une petite parenthèse, on n'a pas appris à gérer les biens communs à Marseille, et justement ce qui pêche dans ce dossier, c'est l'absence de concertation citoyenne. C'est
oui, j'allais venir.
En place
tout à fait.
Des conseils citoyens de la loi Vaillant de 2002, c'est l'absence de transparence, il n'y a même pas eu de concertation avec les professionnels de l'hôtellerie, et aujourd'hui donc les riverains, donc les usages du parc, sont contrariés parce que ce projet arrive de manière imprévu comme ça et vient chambouler tous les gestes de la vie quotidienne, c'est-à-dire se lever le matin, passer par le parc, mener les enfants à l'école, Et on ferme un accès du parc, d'ailleurs, et on ne s'est pas inquiété de savoir si les gens allaient pouvoir faire le grand détour qu'on va leur imposer. On clôture, on ne s'inquiète pas de savoir si le patrimoine paysager, puisque le portail sera visible du bord de mer, et donc la ligne de côte, cette parcelle qui est sur la zone littorale, eh bien, va voir son aspect modifié. On gère ça en fait de manière marchande.
Oui, en fait, entre le moment alors que vous, à travers les sentinelles, vous avez du coup alerté et l'opinion publique évidemment, et puis évidemment les décideurs publics de ce dysfonctionnement démocratique, et entre les premières alertes que vous avez lancées et aujourd'hui où il semble que le candidat ait été Est-ce que le candidat a été sélectionné, hein? On sait qui a remporté l'appel d'offres ou pas?
Il y a plusieurs communications contradictoires. D'accord. D'abord, nous avons lancé l'alerte. Oui. La pétition est très vite montée à plus de 10 000 signatures.
Alors,
elle est au-delà des 14 000 aujourd'hui.
Elle est toujours en ligne, la pétition. On donnera l'adresse tout à l'heure, hein?
Oui, tout à fait. Oui. Et donc la mairie a d'abord communiqué sur le fait que rien ne serait privatisé. Ça, c'était l'an dernier. Ensuite, elle a prolongé l'appel à projet parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez de réponses à cet appel à projet, qu'il n'y avait dans le panier que la personne qui a tapé sur l'épaule de l'élu, etc., etc. Et ensuite, on s'est retrouvé face à une communication par l'usure, c'est-à-dire que mais rassurez-vous, mais on ne donnait rien, aucun enseignement, mais non, rien ne sera privatisé, on ne touchera pas au jardin pour enfants. Et là, les médias ont relancé, donc ont découvert que le lauréat, c'était bien un hôtelier, qu'il y avait bien privatisation et qu'il y avait privatisation de cet espace commun au-delà de ce qui était envisagé au tout départ quand nous, les Sentinelles, avions donné l'alerte. C'est-à-dire que ce que nous avions vu n'était qu'une partie de ce qui était convoité.
D'accord. Voilà. Donc les autorités publiques n'ont absolument finalement pas tenu compte de vos revendications, et puis il n'y a pas eu un temps après de réunion, de concertation avec les habitants tenant compte de ces alertes.
Pas de concertation. D'accord. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ceux qui ont juré que rien ne serait privatisé ont menti.
Qu'est-ce que prévoit le plan local d'urbanisme pour cette zone ? Est-ce que c'est un espace boisé classé ?
Il y a 20 000 mètres carrés d'espace boisé classé, oui.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une dérogation au plan d'urbanisme ? Comment ça se passe ?
Non, parce qu'ils ne vont pas toucher aux arbres sur la partie boisée classée. Ils sont en frange. Et en plus de ça, on peut quand même, dans un espace boisé classé, prendre des risques. La ville de Marseille a déjà fait ce type d'opération. On peut quand même toucher un espace boisé classé. Effectivement, il n'est pas protégé ad vitam aeternam. Voilà. Okay. Donc là, il y a une piscine en extérieur, par exemple, qui est prévue pour l'hôtel. Et on ne voit pas comment les bulldozers vont passer sans abîmer les arbres autour, ou en tout cas abîmer les racines et conduire des dégradations futures. Ça c'est sur sur la partie boisée classée. Ensuite, la partie qui est privatisée, c'est celle qui est la plus ensoleillée au-dessus du jardin. Là, il y a 7000 m2, dont 2000 m2 de bâtiments.
D'accord.
Et
donc,
nous, ce que nous disions, c'est que sur ces 7000 m2, il y en a un peu plus de 4000 qui ont toujours été utilisés par les Marseillais depuis 40 ans, qui figurent sur le plan à l'entrée du jardin, qui est financé par notre taxe d'habitation, notre taxe foncière, sur laquelle, donc c'est une parcelle sur laquelle on fait les photos de mariage, on admire la vue, la plus belle vue sur la rade de Marseille à cet endroit-là, en tout cas, et celle-là, maintenant, sera fermée par un portail inaccessible.
Voilà, donc ça deviendra une partie inaccessible aux habitants de Marseille, en tout cas les habitants qui ont l'habitude de le fréquenter pour les divers usages que vous venez de citer. La presse locale nous a révélé récemment que le projet prévoyait la privatisation de la CRIC en contrebas du parc Valmer. Est-ce que ça ne porte pas atteinte à la loi littorale ?
Eh bien, en tout cas, il y a des règles sur la loi littorale. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vu dans le plan mer, on n'a jamais vu cette CRIC figurant comme un espace sur lequel on projetait une privatisation. Donc là, il s'agit d'une négociation en catimini entre copains sur sur l'usage de cette crique. Et c'est absolument scandaleux parce que je me souviens, moi, qu'en 2014, au moment des municipales, l'un des candidats aux municipales, avec son équipe, avait même proposé qu'il y ait sur toute cette corniche des pontons et des arrêts de bateau-bus, un peu à la manière des Vaporetto de Venise. Là, on a entendu donc l'équipe en place dire que c'était pas possible, mais lorsqu'il s'agit de clients d'hôtels 5 étoiles, ça devient possible. Et c'est absolument, c'est une très grosse injustice qui est faite aux Marseillais.
Mmh. Et pour modifier la loi littorale, comment ça se passe ?
Eh bien, la loi littorale permet quand même de privatiser au maximum 20% du littoral marseillais. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont peut-être tenter de faire rentrer cette crique dans les 20%. Sauf que c'est 20% du littoral qui compte une quarantaine de kilomètres. Mais en l'occurrence, à cet endroit-là, qui est un endroit difficile d'accès, où il était bienvenu d'avoir un espace de baignade supplémentaire ou un ponton pour la navette des Goudes, par exemple, eh bien, à cet endroit-là, ces 20%, ça va faire 100% de l'accessibilité à la mer pour les riverains qui sont obligés d'aller très loin chercher le point de baignade. Voilà.
Merci Hervé Manchon. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez suivre ce qu'il se passe au parc Valmer. Alors, il y a une page Facebook sur laquelle on peut s'inscrire pour suivre ce qui se passe.
Le groupe Facebook donc, s'appelle Les Sentinelles en mutation. Vous trouverez deux publications de Frédéric Coupé, qui est lui aussi co-animateur et co-fondateur du groupe, donc qui sont épinglés sur ce groupe-là, sur Facebook, Les Sentinelles en mutation. On traite de l'affaire Valmer depuis maintenant plus d'un an.
Et il existe une pétition en ligne, vous pouvez nous donner quelques indications ?
Une pétition en ligne donc sur la plateforme change.org. Qui dit non tout simplement à la privatisation du jardin Valmer et qui demande à ce que quel que soit l'usage qui sera fait des bâtiments, l'intégralité des parcs et jardins qui étaient utilisés depuis 40 ans, ses accès, le littoral, soit maintenu public.
Par ailleurs, si les projets d'aménagement de vos territoires, je m'adresse aux auditeurs, vous intéressent, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont en discussion en ce moment et vous êtes fortement invités à y participer dans chacun de vos mairies d'arrondissement. Les prochaines dates sont les suivantes. Mercredi 22 novembre pour la mairie du 6-8, jeudi 23 novembre pour la mairie du 15-16, lundi 27 novembre pour la mairie du 13-14, mardi 28 novembre pour la mairie du 2-3 et jeudi 30 novembre pour la mairie du 1-7. Les mairies d'arrondissement que je n'ai pas citées, je ne les ai pas citées parce que les réunions de concertation, je mets des guillemets bien entendu, ont déjà eu lieu. Et c'est toujours à 17h30. Et de toute façon, vous trouverez toutes les informations sur le site de Radio Grenouille à la page Métamorphose. Merci beaucoup Hervé. À bientôt.
Merci.
Métamorphose.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités Fabienne Orsi, Daniela Festa, Hervé Manchon. On remercie aussi Commons Police et David Baudinier. Et bien sûr, une spéciale dédicace à mes coéquipiers Cécile Cohen et Jean-Baptiste et Sébastien de Radio Grenouille à la Technique. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission Métamorphose.